Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. On est vendredi le 9 avril, la date limite des transactions approche et en compagnie de Arpin Basu, aujourd'hui, on va accueillir notre confrère, notre distingué confrère, Pierre Lebrun. Alors bonjour Arpin et bienvenue Pierre.
Ah ben écoute, c'est un honneur d'être accueilli par deux chums comme vous deux. Et puis, ça fait un bout de temps là, que je n'ai pas fait le podcast avec vous autres. Je pense depuis le camp d'entraînement, peut-être, ou peut-être ouais. Même durant la pause. Je ne me rappelle plus.
Je me rappelle plus non plus.
Ça remonte à l'année dernière. Honnêtement,
ça remonte. Je pense que la dernière fois qu'on l'a fait, on était ensemble. Ce qui est comme impensable en ce moment que trois personnes soient ensemble.
Ah, ben ça. Alors, ça, c'était durant le camp d'entraînement avant 19-20. Bon. Ouais.
Oui, exact, c'est ça, à Brossard. Alors, ben écoutez, tout le monde, n'ajustez pas votre appareil si le son vous semble un petit peu différent. C'est qu'à Montréal, dans notre secteur, ben, il y a une panne d'électricité. Alors, on a bricolé ça avec du tape et de la broche, mais on va quand même arriver à vous fournir un épisode aujourd'hui. D'entrée de jeu, Pierre, ben écoute, évidemment, on a l'habitude de donner un peu la liste des sujets qu'on va traiter au début d'un épisode, mais évidemment, notre attention aujourd'hui, essentiellement, va être portée sur la date limite des transactions. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça te lancer sur la situation des Canadiens de Montréal, une équipe que tu suis quand même de très près via TSN cette saison. On t'entendait dire que tu t'attendais à ce que ce soit généralement tranquille de la part du Canadien? Est-ce que c'est toujours ton avis à trois jours de la date limite des transactions?
Bien, je pense que le Canadien, si l'opportunité est là, va aller chercher un défenseur de profondeur. Je pense que c'est vraiment ça l'objectif numéro un pour Marc Bergevin présentement, selon ce que j'entends des autres équipes alentour de la Ligue dans les dernières 24 heures. Alors, je pense que ça a été vraiment ça la façon que le Canadien a réagi. Tout à coup, à leur espace de plafond salarial, après que Brendan Gallagher s'est fait mettre sur la liste des blessures. Ça fait du sens parce que, ben écoute, ça fait du sens, c'est mon opinion. Je sais pas si, ben, en lisant vos textes cette semaine, je pense que vous êtes d'accord, là, mais je pense qu'un défenseur pour le troisième duo, un 5-6 septième type, je pense que ça serait le bon fit pour le Canadien. D'ailleurs, je pense que moi, PowerPoint, on est d'accord. Moi, j'aime beaucoup Dmitry Kulikov comme une option pour le Canadien. Ouais. Les Devils sont, évidemment, veulent l'échanger. Les joueurs autonomes le 28 juillet. Et puis, ça me surprendrait beaucoup que les Devils n'auraient pas déjà téléphoné le Canadien là-dessus, en fait. Fait que, écoute, c'est pas seule option, mais c'est un exemple, je pense, de le genre de move que moi, j'aimerais voir le Canadien faire. Il fait juste 1,15 million. Il a de l'expérience, il est bon à déménager la rondelle de sa zone. Puis s'il y a des soirs que tu n'es pas satisfait avec soit Victor Mété ou le jeune Romanov, tu peux rentrer le vieux là-dedans. Puis je pense que c'est une option qui est assez agréable.
Ce qui m'intéresse le plus, puis effectivement, c'était en lisant ton texte hier, je pense, oui. C'est l'état du marché, dans le fond, le fait que les prix sont quand même à la baisse que d'habitude. T'sais, d'habitude, on penserait qu'un gars comme... Ben, en fait, tu regardes juste le retour pour Kyle Palmieri, à quel point... Et même ce que les Blackhawks ont fait avec... Les prix sont un peu... sont pas normales, comme dans une année normale. Alors, les Canadiens, t'sais, ils possèdent quand même... Ils ont déjà échangé un de leurs trois choix de troisième ronde, mais ils possèdent quand même trois choix de quatrième ronde. Mm-hmm. Et je me demande si... ça va être quand même assez dans un marché comme on le voit cette année pour aller chercher un défenseur de profondeur comme on est en train de parler.
Oui, c'est ça. C'est un très bon point, Arpin. Puis, écoute, c'est à moitié mon opinion, mais l'autre moitié, les conversations que j'ai avec les autres gérants autour de la Ligue, qu'on dirait que les prix sont plus bas. Puis ça va être de plus en plus bas, je pense, à lundi. Mais je dois t'avertir, par exemple, que des années qu'on fait un consensus avant la fin de semaine à date limite, puis tout à coup, le lundi, le contraire arrive. À cause d'une panique des fois parmi les acheteurs. Alors, c'est difficile à prédire, mais moi, je pense que les Devils ont fait la bonne décision de prendre le premier choix des Islanders quand ils l'ont eu pour Zajac et Palmieri, parce que je vois pas comment l'offre s'améliore d'ici à lundi. Parce que une des choses que je fais, puis je sais qu'il y a d'autres gérants qui ont fait aussi, si tu regardes vraiment la liste des acheteurs, les équipes qui espèrent d'ajuster avant lundi à 15h, heure de l'Est. Ils ne sont pas nombreux. Il y a beaucoup d'équipes qui vont faire les séries qui sont faites dire par le propriétaire, tu n'ajoutes rien. Des raisons économiques, des raisons du plafond salarial, et toutes sortes de raisons. Moi, je pense qu'il y a à peu près peut-être 8-9 équipes au max qui vont vouloir ajuster. Ça, c'est beaucoup moins que d'habitude. Écoute, habituellement, tu as au moins 16 équipes.
Ouais,
c'est logique. Ça, c'est une des choses qui a changé cette année. Le repêchage d'expansion de Seattle affecte beaucoup des décisions aussi à cause des listes de protection. Alors, il y a toutes sortes de raisons, mais je suis d'accord. Je pense que le Canadien, s'il veut aller ajuster, que ce soit Kulikov ou un autre défenseur qui est joueur autonome à la fin de la saison, pourront peut-être le faire pour un troisième ou un quatrième choix, je crois. Mais qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il faut être patient. Je ne suis pas sûr qu'il peut faire ça aujourd'hui. Mais peut-être à lundi, oui. Fait qu'il va falloir, si t'es Marc Bergevin, tu dois être patient, je pense, pour voir comment le marché se déroule. Mais l'autre chose qui peut arriver aussi, parce que je ne veux pas me faire citer que c'est impossible que Marc Bergevin fasse quelque chose de plus gros parce qu'on le connaît. Puis ouais. l'exemple de Thomas Vanek en 2014 est parfait parce que justement, malgré du fait que je pense que le Canadien ne veut pas vraiment, ne mise pas vraiment à aller chercher un joueur d'avant, je pense que vous êtes d'accord. On a Caulfield et Mineur, on a Armia qui revient. Mais il s'agit quand même que si le marché bouge d'un effet assez réel lundi, puis tout à coup, tu as un compteur de 20-25 buts. Puis le prix a venu de changer d'un premier choix à un deuxième choix, puis c'est rendu un troisième choix. Pas sûr que le Canadien ne devrait pas rentrer là-dedans.
Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que, on dirait que la blessure de Brendan Gallagher, le fait qu'il ait été placé sur la liste des blessés à long terme, fait en sorte que le Canadien, qui était dans la liste des équipes qui étaient plus ou moins en position de faire des transactions, de faire des acquisitions, à cause qu'il était à ce point à côté contre le plafond salarial, là, subitement, il devient dans le camp des équipes qui peuvent aller chercher du salaire. Et peut-être pas énormément, parce qu'on parle quand même d'un espace sous le plafond qui correspond environ à 2 millions, mais quand même, je veux dire, entre une équipe qui se dit, ben moi, si je veux m'améliorer maintenant ou quoi que ce soit, si je pouvais me départir d'un contrat, ce ne serait pas une mauvaise chose. Et on dirait qu'en l'espace de quelques jours, le Canadien est passé de cette optique-là à celle de dire, ben on peut profiter du fait que les prix baissent justement pour ajouter un gars en attaque ou surtout en défense et bénéficier du fait qu'on a cette marge de manœuvre-là ça lui ouvre de nouvelles possibilités. Ça n'a pas pris grand-chose finalement pour que sa situation change. Là.
Non, c'est ça. C'est drôle parce que quand j'ai fait mon entrevue avec Marc Bergevin la fin de semaine passée, tu sais, je lui ai demandé un peu ben, qu'est-ce qu'il va faire quand tout le monde est en santé. Puis il a dit ben, je vais prendre une décision-là quand que ça arrive. C'est pas encore arrivé. Puis il a comme prédit le futur. sans vouloir le faire, évidemment, parce que je pense qu'on est d'accord que c'est peut-être son joueur favori d'avant, Brendan Gallagher. Mais il a fait un bon point. Lou Lamoriello dit toujours ça. Demande-moi pas de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Je pense que tous les journalistes à Montréal, et moi inclus, on se demandait comment que le Canadien était pour gérer tous leurs joueurs avec l'acquisition d'Eric Staal, le retour d'Armia, le retour de Toffoli. Armia n'est pas encore revenu, mais le retour éventuel avec le plafond salarial. Parce que je ne suis pas convaincu que le Canadien pouvait mettre sa patinoire exactement qui voulait avec le plafond salarial si tout le monde est en santé et Gallagher ne se blesse pas.
Ouais.
Alors c'est... Ça a pris un match l'autre soir, Gallagher se blesse, puis tout a changé avec la date limite pour le Canadien. Mais encore une fois, je pense pas que ça va être dramatique, par exemple, comme effet. Je pense que c'est plus finalement, là, le Canadien peut respirer avec le plafond salarial et il peut aller chercher un défenseur, selon moi, on verra.
Oui, on verra, mais en fait, surtout, ça ouvre la possibilité que Cole Caulfield se retrouve à Montréal à un moment donné, puis avant la blessure à Gallagher, c'était pas clair comment il allait réussir à faire ça. Puis je pense que la grande motivation, bien, une des grandes motivations de Marc Bergevin à essayer de se départir d'un contrat, c'était ça aussi. C'était le fait que je pense que, écoute, personne du Canadien a dit que le plan est que Cole Caulfield va être à Montréal à telle date. Je suis pas en train de dire ça, mais c'est difficile de pas avoir l'impression que Cole Caulfield est dans les plans du Canadien cette saison.
Ah, moi, je pense que c'est garanti qu'il va jouer pour le Canadien.
Ouais. Bon,
ben, à quelque
temps. C'est simple que ça.
Ben, écoute, c'est parce qu'en même temps, la blessure de Gallagher le justifie. Je veux dire, c'est quand même. Le Canadien vient de perdre un marqueur. C'est des buts qui vont devoir être remplacés d'une manière ou d'une autre. Puis je pense que la manière dont Dominique Ducharme a déplacé ses effectifs, changé ses trios, essayé de trouver un certain équilibre aussi suite à l'arrivée d'Eric Staal, on voit qu'il y a quand même l'absence de Brendan Gallagher, même si le Canadien a juste joué deux matchs. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'attaque qui est peut-être potentiellement plus rare. Moi, personnellement, je veux pas trop m'éloigner de la question de la date limite des transactions, mais je regarde la façon dont on utilise Eric Staal depuis son arrivée à Montréal, puis je me dis probablement que le Canadien serait mieux servi en mettant Paul Byron sur le trio de Philippe Danault, de remettre Jesperi Kotkaniemi, qui fait quand même de l'excellent travail à l'aile. Je pense qu'on est... Il surprend agréablement tout le monde, mais de le replacer au sein d'un trio top 9 avec des bons ailiers, que ce soit Toffoli, Anderson, ce type de gars-là, puis de donner un rôle peut-être plus effacé, un rôle de soutien à Eric Staal, quitte à ce que Staal ait Evans à ses côtés, mais peut-être rééquilibrer l'attaque, puis dans ce contexte-là, de pouvoir rappeler un gars comme Cole Caulfield, l'insérer au sein du top 9, ou simplement dire, ben, ça va être une arme de plus pour nous en avantage numérique. Mais je pense qu'il y a des combinaisons à aller chercher, sauf que l'absence de Gallagher, je pense, fait mal à l'offensive.
Mais je dois dire, je l'ai mentionné hier soir durant le podcast TSM, mais moi, j'aime beaucoup la façon que Kotkaniemi apparaît à l'aile. Peut-être c'est juste pour quelques matchs. Là. Je ne dis pas que c'est évidemment, c'est un joueur de centre, je le sais, mais je dois dire que son jeu physique, le fait qu'il peut peut-être se promener un peu plus sur le côté offensif qu'il peut quand il est un centre et il doit faire attention à ses responsabilités défensives. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on voit de Kotkaniemi dans les deux derniers matchs, franchement, sur cette ligne-là.
Ben, je pense que le fait de jouer avec Dano et Tatar, ça rend son rôle très clair dans sa tête. T'sais, son rôle, il sait qu'il faut qu'il aille au Philippe. Philippe Dano a dit après le match de jeudi que t'sais, il ne va pas aussi souvent que Gallagher le fait, puis ils font une petite rotation, mais quand même, il va plus souvent qu'il le fait d'habitude. Je trouve qu'on voit Kotkaniemi devant le filet beaucoup plus souvent, puis il est en train de batailler, établir du position. Puis c'est juste le niveau de confiance dans son jeu physique. La façon dont Dano et Tatar jouent, je ne sais pas ce que ça donne, mais il a vraiment pris à cœur le fait que c'est lui qui doit aller récupérer des rondelles comme Gallagher le fait pour ces deux gars-là. Et il commence à utiliser son physique plus souvent. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour le Canadien. Mais pour revenir à Caulfield, je pense que ça ne s'éloigne pas du date limite de transaction, la question de Cole Caulfield, parce que si le Canadien a véritablement ça en tête comme un plan, dépendamment, évidemment, comment Caulfield performe avec le Rocket de Laval, avec son premier match ce soir, ça impacte un peu ce que Marc Bergevin veut faire sur le marché des transactions, parce que s'il y a un attaquant qui l'intéresse, il ne va pas aller le chercher s'il y a déjà un plan que Cole Caulfield va jouer avec le Canadien avant la fin du mois ou même avant ça.
Oui, non, c'est un bon point. Puis c'est pour ça que je pense que la seule façon qu'il va chercher un joueur d'avance, c'est que le prix il descend tellement. Encore une fois, j'utilise l'exemple Vanek. Écoute, vous connaissez l'équipe mieux que moi. Il n'y avait aucun plan d'aller chercher Tomáš Vanek cette année-là à la date limite.
Ouais.
Aucun plan.
Mais le prix est ridiculement bas.
Il s'est rendu à 2h30 sur la date limite. Il s'est rendu compte qu'il n'y a pas personne qui faisait un offre sur Vanek. Moi, je me rappelle, j'ai parlé à Gar Snow après la date limite, le directeur gérant des Islanders. Puis c'était de la panique.
il était pas content du tout. Je me souviens, nous, on était à Anaheim au moment de la transaction. Et puis c'était. Écoute, il était, les bras lui avaient tombé. Je pense qu'il s'est fait vraiment prendre de court. Il ne s'attendait pas à ce que le marché tombe à ce point-là. Puis qu'il se retrouve finalement les fesses dans l'eau de cette manière-là, parce que c'était un atout qui, en principe, Vanek aurait dû lui apporter un bien meilleur retour que ça. Alors, effectivement, mais depuis ce temps-là, année après année, on entend Marc Bergevin dire les prix sont très élevés. Les prix sont très élevés. C'est la même rengaine à chaque année. Mais là, cette année, effectivement, avec le groupe d'acheteurs qui a diminué, avec le fait aussi que, tu mentionnais les propriétaires qui demandent aux dirigeants de ne pas rajouter de salaire, on peut inclure la quarantaine là-dedans. Il y a tout un une multitude de facteurs qui font en sorte que l'intérêt pour rajouter des joueurs et la réticence à céder soit des jeunes joueurs ou encore des joueurs au pêchage fait en sorte que finalement les équipes vendeuses ne seront peut-être pas capables de générer le genre de vente aux enchères qu'ils espéraient faire à l'origine.
Puis tu sais, Gallagher revient à quelque temps dans la série. Là. Fait que c'est pas juste le plafond salarial puis toutes les choses qu'on vient de parler, un rôle pour Caulfield. Le point d'Arpon est très bon. Si tu vas chercher un joueur d'avant parce que t'avais pas planifié pour ça, mais le prix est tellement fou que t'as pas le choix d'aller regarder là-dedans lundi. Mais il faut aussi avoir un plan pour les séries où qu'on met tout le monde. Là.
Ouais.
Et je sais que c'est le fun de dire, c'est le fun d'avoir de la profondeur, puis c'est le fun de ci, le fun de ça. Mais tu sais, t'as vu certaines équipes cette année avec les taxi squads et des vétérans qui jouaient pas, c'est pas facile à gérer non plus.
Non. Non, il y a ça aussi. Puis en fait, dernier point sur Caulfield, ce que je trouve intéressant là-dedans avec ce que Marc-Antoine disait en ramenant Kotkaniemi au centre, disons, puis peut-être tu mets Byron là-bas. T'sais, tout d'un coup, ça devient comme plus intéressant à voir Caulfield sur ton quatrième trio. T'sais, souvent, le monde va dire on n'amène pas un jeune marqueur comme ça, puis le mettre juste faire jouer 10-12 minutes sur le quatrième trio, ça ne sert à rien. Laisse-lui jouer 20 minutes à Laval, il va être bien mieux là-bas. Mais dans le contexte actuel, si jamais Eric Staal, c'est ton quatrième joueur de centre, là, c'est un peu plus de sens que tu peux essayer de faire jouer Caulfield sur le quatrième trio, le mettre sur le power play, c'est certain, on a besoin de quelqu'un comme lui. Mais ça rend ça beaucoup plus intéressant que si Jake Evans était le quatrième centre de l'équipe.
Ben oui, moi, je suis d'accord avec ça. C'est aucun doute là-dessus. Tu sais, Eric Staal, je suis content de son acquisition. Je pense qu'il vient remplir un besoin pour le Canadien, puis il améliore l'équipe. Sauf que là, en ce moment, j'ai l'impression que l'équipe, Dominique Ducharme l'utilise pour voir qu'est-ce qui lui reste exactement dans le réservoir. Maintenant qu'il est sorti de l'environnement de Buffalo, le remettre dans un environnement plus positif, qu'est-ce qu'il a à donner exactement quand on l'entoure de bons joueurs? Sauf que la réponse, pour l'instant, la réponse qu'on voit après deux matchs, c'est un gars qui visiblement est une fraction du joueur Et puis tu te dis, ben, je pense qu'il peut être, surtout en séries éliminatoires, mais même aujourd'hui, peut quand même être un léger upgrade par rapport à Evans sur un quatrième trio, mais de l'employer sur un deuxième trio, comme c'est le cas actuellement, je pense que c'est un petit peu de se faire des accrocs.
Puis c'est difficile à faire, surtout avec des joueurs qui ont une carrière comme lui, mais lorsqu'Armia est au retour au jeu, et puis lorsque Caulfield sera avec le Canadien, on ne sait pas c'est quand, mais lorsque ça arrive, le Canadien joue tellement de matchs par semaine là, jusqu'à la fin, on doit aussi se demander si c'est peut-être faudrait peut-être mettre Eric Staal à l'écart une fois de temps en temps dans la série. C'est beaucoup de matchs, là, 4 matchs par semaine. Là. Des 3 en 4. Le Canadien a un 3 en 4 à chaque semaine jusqu'à la fin de la saison. C'est pas facile.
C'est vrai pour Staal. Ça pourrait être vrai pour Corey Perry. Ça pourrait être vrai pour les joueurs de soutien. Je te dirais même que ça pourrait être vrai en défense.
Ça pourrait être vrai pour Shea Weber si le Canadien confirme leur place en série à quelque temps en fin avril, début mai. Il faudrait gérer ça, selon moi. Beaucoup de matchs.
Comment ils vont choisir le gars qui doit aller dire à Shea Weber qu'il ne joue pas? Parce que ça va être le pire job de l'organisation d'être le gars qui est désigné à aller dire à Shea Weber, écoute Shea, ce soir tu ne joues pas parce que tu as besoin du repos parce que tu es vieux.
Je le ferais seulement si le Canadien est en série.
Ouais, non, c'est ça. À ce cas-là. Mais ouais, il n'aimerait pas ça, anyway, mais...
Qu'est-ce que tu dirais, c'est que Scottie Bowman, quand les Red Wings ont gagné 62 games, a enlevé Nicklas Lidström de l'alignement à la fin de la saison parce que c'est des matchs qui valent rien.
Mais voilà, c'est l'argument à faire, mais même avec ça, Shea Weber ne serait pas content. C'est un gars qui veut jouer tout le temps, puis déjà, je pense que le fait que ces minutes sont en train de tomber un tout petit peu, ça il n'aime pas ça.
Un autre point je voudrais faire sur le Canadien, finalement, on a décidé de faire le Canadien aussi, la mieux tout ça, là, mais c'est vraiment apparent, là, puis je sais que vous en avez parlé, mais ça va en prendre plus de Suzuki et Drouin en particulier, là, parce que ces deux-là, surtout, ouais. là, ils font mal aux Canadiens avec leur manque de production présentement. Écoute, c'est pas un. Je pense que Jonathan Drouin essaie tellement de trouver une façon. Je veux dire, l'effort est là hier soir, mais ça prend des points. Ça prend des points de ce gars-là. Puis c'est le côté Suzuki, moi, je commence à me demander si c'est un peu mental, dans le sens que c'est sa deuxième année. On voit souvent ça que les joueurs de deuxième année, que des fois, il y a des périodes difficiles, puis il en connaît une pas mal.
Oui, bien, ouais. En fait, dans le cas de Suzuki, je dirais que ce qui est plus... Moi, je trouve le cas de Suzuki un peu plus inquiétant que Drouin, parce que Drouin crée des choses encore, tu sais. C'est pas constant, ouais. Mais il est autour de la rondelle, il crée des chances. Tu sais, Josh Anderson, il aurait dû en mettre dedans hier soir, tu sais, après que Drouin l'a mis sur la palette, là, il y avait un filet ouvert quasiment. Suzuki ne crée pas grand-chose en ce moment. C'est ça la différence à mes yeux, que il n'y a pas beaucoup de chances de marquer, ouais. Qui sont comme... Que Suzuki est à l'origine de ses chances. Ça arrive des fois qu'il est sur la glace et il crée quelque chose, mais c'est pas le niveau constant, c'est vraiment pas là.
Non, franchement, il a de la fatigue. Ouais. Puis c'est une des raisons. Écoute, Eric Staal, c'est plus vieux Eric Staal, mais ça donne encore plus de raisons d'aller chercher Eric Staal, parce que physiquement, on dirait qu'il y a des matchs difficiles là, pour Suzuki.
Ouais. Dans le cas de Drouin, écoute, je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que face aux Maple Leafs, il a connu un de ses pires matchs de la saison. Le mauvais Jonathan Drouin qu'on voyait dans certains matchs les saisons précédentes, je pense qu'il est ressorti à l'occasion de cette rencontre-là. Mais de manière générale, je trouve que Drouin, pour reprendre une expression fétiche dans le monde du hockey, il joue de la bonne façon cette année. Et puis, ça doit être particulièrement frustrant quand tu te fais répéter le message comme quoi si tu fais les choses de la bonne façon, la production va suivre. Les résultats vont finir par arriver. Et là, cette année, il fait les choses de la bonne façon, mais la production ne suit pas. Alors, ça doit...
Ouais, c'est un bon point.
Ça doit être un truc plus difficile à gérer, parce que je trouve que ce soit au niveau de son engagement dans les coins de patinoire, son acharnement, tu sais, je pense que dans ses replis, ça sera jamais Jacob de la Rose Elite Back Checker.
Ouais.
Cela étant dit, je pense qu'il s'est amélioré à ce niveau-là. De manière générale, je trouve que sa conscience défensive, on l'a vu au début de la semaine contre les Oilers Edmonton, c'était impeccable. Je pense que dans plusieurs facettes du jeu, il s'est amélioré. Sauf que ça ne s'est pas transposé en des points, surtout dans la colonne des buts.
Oui, écoute, je suis d'accord avec tout ça. En fait, c'est pour ça que j'ai dit que l'affaire est là. C'est sûr que l'affaire est là. Il a payé le prix. Nick Thompson, il a donné quasiment une volée pour aller au filet chercher une rondelle libre en deuxième période hier soir. Il a fait un bon move en troisième période, tout un move élégant pour créer une chance en troisième période, mais il n'a pas été capable finalement d'avoir un lancer au but. Mais fait que l'affaire est là, les chances sont là. Mais c'est tough de dire ça, mais à la fin de la journée, des gars de même, il y a juste une statistique qui démontre si tu fais ta job.
Oui. Ouais. Non. Puis la personne qui est plus au courant de ça, c'est Jonathan Drouin. Lui, il le sait. Là. C'est pour ça que quand il est sorti après le match contre Toronto en disant qu'il commence à penser à ça, puis ça pèse sur lui, le fait qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts, deux buts seulement toute la saison, c'est assez révélateur. Écoute, les gars, on va prendre une petite pause. On va aller prendre une petite pause, faire un peu de business. Puis en revenant, on a parlé pas mal du Canadien, juste du Canadien à date. On va faire un petit survol de la division canadienne, puis un peu le reste de la Ligue avant la date limite des transactions lundi.
Looking for an assist with your credit card, but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24/7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human in customer service anytime. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com/creditcard.
Bon, mais on est de retour avec notre invité Pierre Lebrun. Et juste avant de faire le tour un peu des concurrents des Canadiens dans la division et un peu l'état des choses dans la Ligue, on voulait revenir un peu sur les options en défense pour le Canadien avant lundi. Y a-t-il d'autres noms qui circulent à ton avis, qui pourrait être un fit dans ce rôle-là?
Mm-hmm. Ben, écoute, je suis sûr que le partisan des Canadiens aimerait voir David Savard dans l'uniforme du Canadien, mais moi, je ne vois pas ça comme un fit. Probablement, très simplement, parce qu'à la droite, pas trop sûr où tu le mettrais, à part du troisième duo, puis je ne suis pas sûr que c'est ça, c'est un rôle pour David Savard.
Mm-hmm. Ouais.
Fait que je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là.
Ouais, ouais, non. Puis aussi, il coûte trop cher aussi, là, puis le prix serait probablement un peu plus élevé que le Canadien veut payer. Il y a ça aussi.
Moi, ce que je vois dans le cas de la situation du Canadien en défense, c'est que Marc Bergevin doit regarder, se dire, OK, Ben Sherrod va revenir bientôt. Je vois que je pourrais aller chercher un défenseur qui pourrait m'améliorer mon numéro 7, à trouver un meilleur défenseur finalement que Victor Mété au cas où jamais il y a une autre blessure en défense après le retour de Sherrod. Un joueur en qui on pourrait avoir une plus grande confiance que Victor Mété, quand même, qui a été cloué au banc durant toute la troisième période jeudi soir. Mais en même temps, si tu dis, OK, j'ai tous mes gars en santé, puis je vais chercher un défenseur de qualité, rendu en séries éliminatoires, il va falloir que je fasse un choix entre retrancher Brett Kulak, Alexander Romanov, Ben Sherratt, ou bien ce nouveau joueur-là que je vais être allé chercher. Alors, il va falloir que soit que ce soit un défenseur de très haute qualité, puis tu dis, lui, il n'y a aucun doute que ce gars-là, il est dans notre top 6, ou bien si c'est juste une amélioration marginale par rapport à ces gars-là, tu ne peux pas te permettre de payer ni au niveau de tes actifs, ni au niveau du prix monétaire, un trop gros prix pour aller chercher ce gars-là.
Non, je suis d'accord, mais je te dirais qu'à part que les Kings de Los Angeles en 2012 qui ont utilisé les 6 mêmes défenseurs pendant 4 rondes, la plupart des équipes qui se rendent quelque part, ils se rendent à peu près 9-10 défenseurs avant la fin des séries.
Ouais.
Mmh. Puis les gérants, quand je leur parle de date limite, les défenseurs, puis ils pensent qu'ils ont une bonne équipe, pensent toujours de même. C'est comme le pitching au baseball. Hein. Tu dois te donner plus de quantité que tu peux faire. Puis malheureusement, tu ne peux pas trop te faire avec les égos puis les qui joue, qui ne joue pas, parce que les blessures vont probablement venir.
Mmh. C'est ça qu'un gars comme... Un gars comme John Merrill me semble pas mal intéressant. Là. 925 000 avec les Red Wings de Détroit qui sont ouverts pour le business.
Mm-hmm. Ça a l'air. Ouais. Il y a Mike Riley à Ottawa, 1,5 million.
Ouais.
Est-ce que...
Ship has sailed, comme on dit. Là,
est-ce qu'un gars comme Brandon Montour, avec son salaire de je pense qu'il est à 3,85 millions, est-ce qu'il est nécessairement à cause de son prix en dehors de ce que le Canadien peut se payer, où tu verrais une situation où le Canadien pourrait trouver une façon soit de convaincre les Sabres de retenir du salaire ou encore renvoyer du salaire en retour pour ses services?
Ouais, je pense que les Sabres vont être ouverts à retenir du salaire absolument. Écoute, ils l'ont déjà fait évidemment avec Eric Staal.
Ouais.
Brandon Montour, c'est un droitier, mais il est confortable sur les deux côtés. Alors ça, c'est quelque chose à retenir. Il n'a jamais été capable de retrouver sa performance d'Anaheim quand il était vraiment un top 4. Mais c'est difficile déjà, des fois, d'analyser les performances à Buffalo avec les joueurs. En fait, je sais qu'il y a les gérants qui, justement, essaient de faire ça, pas juste avec Montour, mais avec d'autres joueurs qui les servent à essayer de vendre. C'est très difficile à faire des conclusions à 100% à cause de la performance de l'équipe. Mais moi, je l'aime, Brandon Montour. Mais, tu sais, il est bon que la rondelle. Il n'est pas trop physique. Il joue les deux côtés. Mais, tu sais, 3,85 millions. Alors, c'est ça, comme tu dis, c'est le problème. Il faudrait que les Sabres en mangent à moitié, au moins. Ben, au moins. C'est ça le maximum. Puis peut-être même là, le Canadien voudrait peut-être envoyer un contrat en plus de ça. Mais il y a beaucoup de défenseurs sur le marché. Il y a Patrick Nemeth aussi à Détroit qui fait 3 millions.
Oui, mais c'est un gars à caractère défensif, par exemple. Si on cherche, ouais. Si le Canadien cherche quelqu'un qui va aider la relance de l'attaque ou un gars mm-hmm. qui va bouger la rondelle un peu plus que ce qu'ils font, présentement, je ne suis pas sûr que Patrick Nemeth soit une solution.
Mm-hmm. Non, c'est vrai. Mais ça fait que le prix, puis qui est encore sur le marché lundi.
ouais, ben, c'est ça. Puis en fait, ce qui est désolant dans le cas de Victor Mété, c'est qu'il devrait être ce gars-là. si tu veux un gars qui bouge la rondelle, c'est supposé être lui. Mais je pense que pas mal tout le monde chez le Canadien ont perdu pas mal confiance en lui. Alors, je suis d'accord qu'il devrait bouger d'ici lundi pour aller chercher un petit upgrade à ce niveau-là. Moi, ma question que j'ai, c'est que chez le Canadien, c'est quand même assez bizarre cette année dans la division canadienne que c'est plus ou moins réglé ce qui va être. Les séries sont pas mal réglées. Dominique Ducharme, ça fait deux fois déjà cette semaine qu'il a parlé des séries qui s'en viennent. Il a parlé du fait que c'est fort probable qu'on va affronter les Maple Leafs à un moment donné en série. Puis même avant le match contre Winnipeg, il a mentionné le fait qu'on joue les séries en division. Alors, tous ces matchs-là ont des impacts psychologiques. J'ai jamais entendu un entraîneur de la Ligue nationale parler des séries à un mois avant les séries et avant même qu'il soit qualifié. Mais Dominique Ducharme, c'est un gars réaliste. Et la réalité dans la division, c'est que les quatre équipes qui vont faire des séries est pas mal connue. Moi, je me demande, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on peut s'attendre des trois autres équipes qui vont aller en série de cette division-là d'ici lundi?
Bien, je pense que les Leafs et les Jets vont être très actifs. Ils vont essayer de l'être. Écoute, même juste basé sur mes entrevues avec Kyle Dubas des Maple Leafs et Kevin Sheldayoff des Jets la semaine passée, ils n'ont pas caché leur intention en général, c'est qu'ils veulent aller. Kevin Sheldayoff veut aller chercher un défenseur. Puis dans son cas, je pense un défenseur de premier plan s'il peut. Pas sûr qu'il va être capable de le faire, mais c'est ça le genre d'appel qu'il fait présentement. Et puis c'est vraiment le morceau pour Winnipeg. Hein. Ils sont loadés au niveau de l'attaque. Ils ont gardé un but que gagné Vezina l'année passée, mais ils passent trop de temps dans leur zone. On l'a vu même hier soir avec les Canadiens, avec leurs 38 lancés. Derek Forbert, c'est une très belle histoire. Derek Forbert des Jets, parce qu'il joue 21 minutes par soir, puis on n'avait jamais vu ça à Los Angeles. Mais l'autre côté de l'argument, c'est est-ce qu'il devrait jouer 21 minutes par soir? Ouais. Fait que, je pense qu'il faudrait, tu sais, Mathias Ekholm, ça aurait été l'échange parfait, mais là, les Prédateurs gagnent trop de matchs. Fait que je pense pas qu'il va se faire échanger.
Mais David Savard pourrait être une solution là-bas. Là.
Oui. David Savard, c'est une possibilité pour Winnipeg. Je sais que les Jets ont contacté Anaheim sur Josh Manson, qui n'est pas un joueur de location, qui a une autre année sur son contrat. Et les Ducks, moi, j'ai l'impression, en parlant à d'autres dirigeants d'équipe, que les Ducks font tout simplement prendre des coups d'appel sur Manson juste au cas que quelqu'un va payer trop cher. Mais ils n'ont pas vraiment l'intention de le déménager. Mais on sait jamais. Mais lui aussi, il serait parfait. Ça prend un gars avec une taille comme David Savard, Josh Manson pour Winnipeg, de clairer avant de filer vraiment. C'est le joueur de... Ils ont des défenseurs offensifs, mais ça prend quelqu'un qui a un gros gabarit, qui a un peu plus de talent que Forbert et Pullman pour améliorer leur top 4. Alors ça, c'est la pression que Kevin Sheldayoff a. C'est le côté des Leafs. Kyle Dubas m'a dit cette semaine que la performance de Alex Galchenyuk sur la deuxième ligne des Maple Leafs enlève un peu d'urgence d'aller chercher justement le joueur pour jouer sa deuxième ligne. Mais de la même façon, en général, il aimerait aller chercher un joueur d'avant qui pourrait jouer quelque part dans son top 9, que ce soit la deuxième ligne, la troisième ligne, tu sais, un gars qui est flexible. Mais il a ajusté comme... c'est intéressant parce que Dubis, d'habitude, il dit pas des mots de même, mais Dubis a dit quelqu'un qui est bon dans le vestiaire aussi. Fait que ça m'a donné l'impression qu'il essayait de dire Nick Foligno entre les lignes. Mais ça serait le home run. Mais peut-être même un gars comme Scott Laughton ou quelqu'un qui pourrait jouer sa deuxième ou troisième ligne qui a un peu de caractère pour les séries. Depuis que je pense à ce que les Leafs ont fait depuis qu'ils sont fait éliminés par Columbus l'été dernier, ils ont ajouté Thornton, Wayne Simmonds et Zach Bogosian. Puis là, Dubas dit qu'il aimerait ça un gars qui serait bon dans le vestiaire à la date limite. Ça me fait penser pas mal à la recette de Tampa Bay il y a un an et demi.
Ouais, avec Coleman et Goodrow et tout ça, c'est ouais. Je me demande à quel point, tu sais, puis Joe Smith il a écrit un article très intéressant là-dessus, qu'à quel point ça commençait peut-être une tendance, ces échanges-là que Julien Brisebois a réussi, puis pas mal tout le monde les a critiqués pour, tu sais, ayant payé trop cher, particulièrement pour Barkley Goodrow, c'était quelque chose qui... Choix de première ronde, mais il était sous contrat à un bon prix, puis Blake Coleman, même affaire. Et Puis c'était deux joueurs très importants dans leur run à la Coupe Stanley l'année passée.
Oui, ils gagnent pas. Moi, je pense pas qu'ils gagnent la Coupe sans leur troisième ligne. La troisième ligne de Goudreau puis Coleman ont été la meilleure ligne.
Ils commençaient chaque match.
Ouais.
Chaque match commençait avec ce trio-là. Là. Puis c'était une équipe avec Mikhail Kucherov et Braden Point qui marquaient à chaque fois qu'ils touchaient à la rondelle. Puis c'était eux autres qui entamaient chaque match. Là. C'était quand même assez impressionnant à voir.
Et je pense que c'est justement, je pense que Dubas, évidemment, juste en rentrant Simmons et Bogosian. Thornton, c'est un peu différent parce qu'il s'en va à la temple de la renommée, mais quand même, c'est des éléments. Tu sais, la voix de Thornton dans ce vestiaire-là, ça fait vraiment ressentir cette année. C'est juste lui qui parle. Puis il parle à 5000 à l'heure. Fait que c'était des éléments. Moi, je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, je vais faire attention, mais quelqu'un chez les Blue Jackets m'avait dit après la série qu'on battait Toronto que. Les joueurs des Blue Jackets, ils allaient au banc des Leafs pour leur engueuler, pour leur dire des affaires, puis il n'y avait pas un mot qui se disait de l'autre côté des Leafs.
Ah.
Puis je pense que les Leafs ont voulu changer ça comme il faut, puis ils l'ont fait.
Wow! Ils sont allés chercher un trash talker comme il faut, là. C'est ça, c'est bon.
Ouais.
C'est drôle parce que dans notre podcast, à chaque semaine, on a ce qu'on appelle la minute du patrimoine où on fait le tour des équipes canadiennes. On en choisit une ou plusieurs. Puis là, cette semaine, pour la date limite des transactions, tu parles de Toronto, de Winnipeg. On peut peut-être inclure Edmonton là-dedans. Peut-être que leur situation est différente. Mais au plan salarial, ces trois équipes-là sont toutes les trois coincées quand même pas mal par rapport au plafond salarial. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une équipe peut se sentir aussi à l'aise que Kyle Dubas peut l'être avec les Maple Leafs, de procéder à une transaction, même s'il est coincé contre le plafond, alors que jusqu'à la semaine dernière, Marc Bergevin disait « Ben moi, j'ai les deux mains liées, je ne peux pas vraiment faire une grosse acquisition parce que je n'ai pas d'espace sous le plafond. »
Ben je pense qu'il y a le côté « all-in », puis en fait, je ne mettrais pas Edmonton dans la même position que Toronto ou Winnipeg. Justement, je m'amenais à Edmonton avant que je parle trop longtemps des Leafs. Mais je pense que Edmonton est plus sur le côté de Montréal. C'est que les deux seules équipes, je pense, qui sont vraiment all-in dans la date limite sont Winnipeg et Toronto. Edmonton, je pense, va faire attention. L'année passée, Ken Allen a dépensé deux choix de deuxième ronde, un choix de quatrième ronde et un choix de cinquième ronde en total pour Mike Green, Athanasiou et Tyler Ennis. Mike Green qui a pris sa retraite avant que les séries commencent. Franchement, il y a seulement un choix de quatrième ronde cette année à dépenser à la date limite. C'est sûr que tu peux faire des échanges d'autre façon là, avec des joueurs ou avec des jeunes espoirs, mais je pense que ça, dans le cas d'Edmonton, on va faire beaucoup plus attention. Je pense qu'il va aller chercher un joueur de centre pour sa troisième ou sa quatrième ligne, là, un gars qui pourrait tuer des punitions, gagner des mises en jeu. Je pense que ça va être vraiment ça qu'il mise. Fait que ça va être un peu plus. On va faire attention à Edmonton. Puis l'autre chose avec Winnipeg, c'est que Nathan Beaulieu, qui est sorti pour la saison, ça leur a donné un peu plus d'espace à manœuvrer avec le plafond salarial.
Edmonton devrait faire attention aussi parce que si tu enlèves leur fiche de 9-0-0 contre les Sénateurs d'Ottawa, là, ça change un peu la donne avec. Je pense que leur fiche contre les trois équipes qui vont faire les séries dans la division est quand même en dessous de 500. Alors, il y a ça aussi, la dynamique qui change aussi cette saison, c'est que il faut c'est tellement contre qui tu vas jouer en série que tu peux te donner une meilleure projection de c'est quoi tes chances réelles contre ces équipes-là, parce que t'as tellement un gros échantillon de matchs à juger. Ouais. Alors, tu sais, les Canadiens, ben, ils n'ont pas joué contre les Leafs trop souvent, là, mais rendu là, ils savent à quel point ils sont capables de compétitionner avec les Jets, avec les Oilers. À date, ça n'a pas été très bien contre les Maple Leafs, mais il reste beaucoup de matchs contre eux. Mais ça change quand même assez la dynamique parce que du côté des Oilers, ils vont regarder la situation cette saison puis dire, bon, ben, on n'a pas joué très bien contre les Canadiens, mais McDavid et Draisaitl font rien contre eux pour une raison que personne ne peut expliquer. T'sais, on ne joue pas très bien contre Toronto non plus. Puis effectivement, contre Winnipeg, c'est plus ou moins kiff-kiff. Alors, ça doit affecter un gérant avant la date limite pour quand il voit ça, pour dire que bon, peut-être que ce n'est pas l'année pour nous.
Oui, puis juste le fait qu'on fait les séries, c'est quand même quelque chose. Les Oilers, qui ça fait pas longtemps là, qu'ils avaient commencé à rebâtir leur troisième version d'équipe. Là. fait que c'est, ils ne sont pas supposés d'être la meilleure équipe dans la division non plus. Là. Fait que c'est correct qu'est-ce qu'ils font cette année. C'est absolument vraiment dans leur plan qu'est-ce qui se passe, comparé à leurs cousins au sud dans la même province. Là.
Ouais,
en fait, j'ai un texte qui sort aujourd'hui. J'ai fait une entrevue de Brad Tree Living, puis je dois dire que si tu es capable de lire des messages dans la voix d'une personne, c'est très difficile à Calgary présentement. Fait que, non, je pense à Minton. Écoute, que s'il allait chercher un gars comme Luke Glendening ou un joueur d'offensif de même, je pense que ça va être à peu près tout pour eux autres.
Oh, ça serait cute, Ken Holland qui va chercher Luke Glendening. Ça serait vraiment cute.
Ouais. Va dire une chose. Les Leafs ne le diraient jamais publiquement, puis d'ailleurs, ils ne diraient même pas en privé non plus, là, parce que les équipes sont superstitieuses, mais je te garantis pas mal que les Leafs, malgré les victoires sur le Canadien, c'était des matchs serrés. Les Leafs aimeraient mieux jouer de Minton en première ronde que Montréal.
Ouais, probablement. Ouais. Mm.
J'ai une question pour toi, Pierre. Il y a une possibilité, on entend ça depuis quelques jours, qu'il y a un scénario qui est évoqué comme quoi les séries éliminatoires pourraient être disputées encore cette année dans des bulles. Je ne sais pas si ça a fait du chemin encore, mais cette possibilité-là, semble-t-il, a été évoquée. Il y a des gars qui sont à la date limite des transactions, qui ont des clauses de non-mouvement, qui ont donc la possibilité de dire « je reste avec mon équipe » ou « j'accepte d'être échangé ». Penses-tu que la possibilité que les séries soient jouées dans des bulles et que ça n'enchante pas du tout les joueurs pourrait conduire certains joueurs qui ont une clause de non-mouvement de dire, vous savez quoi, moi, là, me retaper la bulle cette année, non merci, je vais attendre mon tour l'année prochaine.
Moi, ouais, j'ai jamais pensé à ça, mais je sais qu'il y a des discussions de la bulle, mais c'est des discussions vraiment juste pour se protéger. C'est aucunement la priorité du syndicat des joueurs et de la Ligue d'avoir des bulles, encore une fois. C'est vraiment juste s'ils se font forcer par les gouvernements, etc. Mais c'est vrai que c'est une possibilité. Je pense que la Ligue espère que dans un mois, le monde va de l'air un peu différent, surtout au Canada. Là. D'ailleurs, on l'espère tout.
Ouais.
Mais c'est un bon point. Je ne peux pas dire que j'ai un seul agent qui m'a mentionné ça. En général, l'aspect d'aller avec une équipe qui va dans les séries, si tu es sur une équipe qui manque les séries, habituellement, il y a un côté financier là-dedans où si tu es un joueur puis tu vas être un joueur autonome cet été, il y a vraiment une raison que tu devrais dire oui parce que ça peut aider ton cas financièrement le 28 juillet si tu vas trouver une équipe et t'aides l'équipe gagne en série. Fait que habituellement, ça, c'est vraiment l'émotion qui gagne le jour.
Et écoute, Pierre, en terminant, je voulais savoir, je sais que tu as fait beaucoup de travail concernant le calendrier quand le Canadien a été mis en quarantaine pour le COVID. Qu'est-ce que tu entends sur comment la situation des Canucks va se dérouler et quel impact ça va avoir sur le calendrier de la division au complet? As-tu une idée de ce qui pourrait se passer ici d'ici la fin de la saison?
Bien, la Ligue espère, écoute, c'est pas confirmé officiellement, là, mais ça, selon ce que j'entends, la Ligue espère que les Canucks peuvent retourner au jeu vendredi prochain, le 16 avril. C'est aucunement confirmé que ça, c'est possible. Quand on regarde, évidemment, les joueurs qui sont encore sur la liste de COVID et puis leur santé, etc., mais au moins, c'est une conversation qui se passe entre la Ligue et les Canucks. Mais c'est vraiment, je pense, ta question, c'est sur l'autre côté du calendrier, pas ce côté-là. Au mois de mai, ce que la Ligue entame, c'est finalement, il va falloir avoir des matchs passés le 11 mai, malgré leur intention, qui va faire, en fait, un délai des séries pour les équipes canadiennes, mais pas nécessairement un délai des séries pour les trois divisions américaines. Fait que ils vont peut-être commencer avant nous autres au sud. Alors, on demande aux Canucks de jouer 56 matchs. Qu'est-ce que je te dirais, c'est que lorsqu'on se rend à la semaine du 10 mai, si les deux derniers matchs des Canucks, disons que c'est des matchs qui sont sur le 12 et le 14 mai, quelque chose de même. Mm-hmm. Si c'est des matchs contre Calgary ou Ottawa, puis ça a l'air que ce n'est pas des matchs qui vont influencer la course, peut-être la Ligue va avoir des conversations de ne pas jouer les matchs. Mais
il n'y a pas de conséquences sur le repêchage? La possibilité d'avoir des conséquences sur le repêchage?
Franchement, la conséquence numéro un, c'est de l'argent de division.
Ouais. Non, je comprends, mais je sais pas, tu sais, c'est comme. c'est l'impact sur la loterie pour le repêchage ou quoi que ce soit, je me demande si.
Puis d'ailleurs, j'ai parlé à quelqu'un qui les connaît dans l'organisation la semaine passée, puis c'est sûr qu'évidemment, le côté hockey n'était pas trop en priorité. Mais je peux te dire que même s'ils sont sortis des séries, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, on veut quand même jouer nos matchs parce que on évalue les jeunes. Puis peut-être si les Canucks sont éliminés la dernière semaine, ils vont vouloir jouer plus de jeunes américains, faire des décisions. Fait que c'est quand même des matchs qui ont un impact pour eux autres, même si ce n'est pas des matchs. T'sais. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont essayer de tout jouer.
OK. Oh, intéressant. On va regarder. En tout cas, c'est une situation qui est... J'ai l'impression que la fin de la saison paraît bien loin avec la vitesse avec laquelle les choses se développent et peuvent dérailler. Là. On a vu
il y a
3 semaines, les Canadiens qui ont été sur pause. Là, c'est les Canucks qui vraiment mangent la claque solidement. Espérons que ce sera la dernière équipe à vivre cette réalité-là et que les équipes vont resserrer leurs procédures.
Disons que c'est pas le temps de les Leafs qui n'ont pas Nylander à cause de la situation. Hein? Fait que tu sais jamais.
Oui, c'est ça.
Ouais. Exact. Ben, merci beaucoup, Pierre, d'avoir été de passage au Super Athlétique. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Toujours très agréable de te parler.
Bon, ben, ça aurait été mieux avec une bière, mais écoute, on va vouloir attendre qu'on a tout le vaccin et que le monde change un peu. Mais peut-être la prochaine fois.
Absolument. Bon, je l'espère. Tu me manques, Pierre. Honnêtement.
On ne commencera pas à pleurer, là, mais je vous manque aussi.
All right, Pierre, merci beaucoup d'avoir été là. Passe une belle journée.
OK. Salut.
Bye-bye. C'est toujours un bon moment dans l'année quand on accueille Pierre Lebrun au Super Athlétique. J'aime ça. J'ai l'impression que c'est comme un ami qui vient nous visiter. Mais cette fois-ci, il reste dehors parce qu'il n'a pas le droit de rentrer puis il faut qu'il garde son masque, mais... Même à ça, j'ai l'impression que c'est comme un ami qui vient nous voir.
Ouais. Ben, il l'est. C'est un bon ami, mais quand même vraiment à l'affût de tout ce qui se passe dans les nationales. Alors, je pense que, tu sais, quand il parle en connaissance de cause. Tu sais, il n'a pas toujours le droit de dire tout ce qu'il sait, mais tu as quand même la confiance que ses opinions sont informées. Disons, ce sont pas juste des opinions personnelles, ce sont souvent des opinions qui viennent avec de l'information derrière ça. Alors, je pense que quand il parle des intentions, ou disons la possibilité du Canadien de bouger d'ici lundi, c'est fort possible que, basé sur toute l'information qu'il est capable de recueillir des autres équipes un peu partout, c'est fort possible que c'est quelque chose qui va se produire.
Tu mentionnais dans notre conversation, tu parlais des choix de quatrième ronde que le Canadien a à sa disposition. Le Canadien a encore 12 choix. Est-ce que tu penses que la valeur des choix au repêchage va être différente cette année à cause du recrutement qui est plus difficile, à cause du fait que ça va probablement être un repêchage où la marge d'erreur va être plus grande que d'habitude? C'est vrai?
Bien, honnêtement, je pense que les choix au repêchage vont plus de valeur, particulièrement des choix de quatrième ronde, comme on parlait du Canadien, parce que non seulement le recrutement est différent et difficile, je veux dire, cette année, alors il va y avoir beaucoup de joueurs, beaucoup plus de joueurs que d'habitude qui vont probablement se retrouver en quatrième ronde du repêchage, qui vont être disponibles, puis qui vont devenir possiblement des bons joueurs, parce que c'est vrai que le recrutement était difficile, mais le développement était difficile cette année, et le développement pour cette classe de joueurs, cette année de joueurs-là, et les années à venir, je pense, ça va être plus difficile de prédire la courbe de développement pour ces joueurs-là, parce que leur développement veut pas être retardé par la pandémie. Alors, ce que les équipes s'attendaient avant des joueurs et leur développement, puis leur chemin du junior ou des collèges ou de l'Europe jusqu'à la Ligue nationale va être différent. Alors, c'est fort possible qu'un gars que tu repêches en quatrième ronde cette année, où tu dis « Ah, je vais prendre une chance avec lui », toutes les données d'avant qui disent « Ah, tu as tel pourcentage de chance de trouver qu'un choix en quatrième ronde va devenir un gars de la Ligue nationale », je pense que toutes ces données-là ne s'appliquent plus. Dans le fond, il va falloir refaire tout ça. Alors, je pense que oui. Je pense que les 3 choix de quatrième ronde que détient maintenant Marc Bergevin, va avoir une certaine valeur sur le marché, puis je pense qu'il peut aller chercher de l'aide temporaire en défense avec un de ces choix-là. Mmh.
c'est vrai que il y a peut-être plus de chances que des joueurs tombent entre les cracks cette année, à cause justement.
Ben, c'est ça.
Ah, c'est un bon point. Écoute, Arpin, moi, je voulais rappeler à nos auditeurs que s'ils ne sont pas encore abonnés à athletic.com et qu'ils n'ont pas encore accès aux articles que Pierre écrit, que toi et moi écrivons et toute l'équipe d'athletic.com, ils peuvent le faire en profitant d'un rabais en allant au athletic.com/support athletic. Ça donne un rabais sur la première année d'abonnement à athletic.com, qui est disponible évidemment sur le web et sur notre application. Athletic.com/support athletic pour avoir un rabais sur votre première année d'abonnement. Alors, voilà, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Toujours agréable d'avoir ce rendez-vous-là avec vous. Merci, Arpin. On se retrouve très, très bientôt.
Oui, merci, Marc-Antoine. Tout le monde, amusez-vous en regardant Cole Caulfield jouer avec le Rocket de Laval ce soir. Puis, amusez-vous lundi pour la date limite. Puis, viens nous voir sur athletic.com pour voir toute notre ouverture. Puis, on se parlera la semaine prochaine, vendredi, pour The Athletic Sport en anglais.
Excellent. Merci. Au revoir, tout le monde.